Bonsoir Benjamin Armand.
Bonsoir Radio Royan.
Et en introduction un peu de ce vernissage, effectivement toujours dans la veine qui habite hein, la commune de Saint-Marcellin, on pense bien entendu à cette maison Zekeli dont déjà des éléments ont été posés sur la place du Champ de Mars. Alors c'est une journée un peu particulière entre cette exposition, l'habitation, le bateau ivre, tout ça se mêle.
Exactement, on a voulu en fait pour ce soir lancer, j'ai envie de dire officiellement, l'histoire du bateau ivre avec une exposition, la première exposition qui retrace, on va dire dans les grandes lignes, l'histoire de la maison avec des archives. Alors je tiens tout de suite à dire que c'est une partie, c'est un iceberg en fait, il y a toute une partie cachée qui est le fruit des recherches actuelles qu'on a menées depuis 2 ans. Mais là, ce qu'on voulait, c'était que la population puisse s'emparer de cette histoire avec une exposition accessible, lisible. Et donc, l'idée est venue de ces cubes d'1,50 m posés sur le Champ de Mars, devant la fontaine, pour que tous les habitants, qu'ils soient familiers d'être de la maison ou pas, puissent prendre un temps, s'arrêter, regarder et finalement dialoguer d'une manière indirecte avec la maison à quelques mètres.
Oui, parce que beaucoup de Saint-Marcellinois, finalement découvrent. C'est quelque chose d'assez insoupçonné, cette présence artistique dans les années 70. C'est un peu une renaissance aussi maintenant, une certaine résilience de cette existence avec ces différents objets.
Ben, totalement. En fait, cette histoire, cette belle histoire qui a accueilli du beau monde, comme on peut le voir très succinctement dans l'exposition, c'est aussi, comme vous avez très justement dit, toute une histoire à la fois de Saint-Marcellin, par les acteurs qu'elle a pu impliquer, et puis une histoire de l'art avec les disciplines comme la céramique, la tapisserie, l'architecture qui ont été à l'honneur dans les années 50 et 60 à Saint-Marcellin. Et là, ce qu'on veut, c'est rendre à la fois cette mémoire vivante, mais aussi renouer avec tout ce pan de l'histoire de l'art qui est mise en lumière à l'échelle nationale. On voit le renouveau de la céramique et de la tapisserie depuis une petite dizaine d'années. Dans l'enthousiasme que peuvent avoir les galeries à Paris, à Lyon, dans les grandes métropoles, mais aussi à travers les rétrospectives publiques. Et donc, la maison s'inscrit totalement là-dedans.
Alors, c'est aussi assez curieux, cette résonance à l'heure actuelle. Une exposition Miro au musée de Grenoble, les Zekeli à Saint-Marcellin, ça fait une sorte d'écho, non ?
C'est une très belle idée, un très beau parallèle, puisque Miro a été une influence majeure, comme Paul Klee d'ailleurs, pour les Zekeli et pour André Borderie, à la fois dans le traitement des couleurs, mais aussi dans la composition de la céramique. Et c'est vrai qu'à l'avenir, on y reviendra au moment des discours, mais on aimerait créer des partenariats avec le musée de Grenoble. D'autant que Pierre Zekeli et Vera Zekeli ont proposé un certain nombre d'œuvres qui sont aujourd'hui à la fois dans Grenoble et surtout sur le campus de Saint-Martin-d'Hers, mais aussi dans tout le territoire de l'Isère, à Champs-Rousses, à Courchevel. Et donc effectivement, à la fois c'est Miro aujourd'hui avec cette exposition temporaire au musée de Grenoble, mais demain j'aimerais que ça soit carrément les Zekeli ou d'autres céramistes qui puissent dialoguer avec ce qu'on fait à Saint-Marcellin en périphérie.
Et l'avenir de la maison, il peut y avoir aussi une certaine habitation ou des expositions qui pourraient l'habiter prochainement ?
Je reviendrai, on a posé un calendrier avec des phasages de manière extrêmement précise et réfléchie. Effectivement, l'idée, ça serait d'en faire un lieu d'exposition vivant avec de la petite restauration et demain, réserver l'espace nuit à de l'habitation insolite et à de la résidence d'artistes.
Voilà, donc il y a toute une phase aussi peut-être avant de requalifier d'un point de vue travaux peut-être.
Exactement, c'est ce qu'on va annoncer ce soir. C'est à la fois la reprise du toit, qui est une urgence actuellement, puisque le toit est en grand danger. Et ça menace la principale œuvre de la maison qui est la fresque monumentale qui est exposée dans la salle à manger. Et après, il viendra le temps de travaux, d'accessibilité, de mise en conformité pour pouvoir justement accueillir ces événements.
Et ce qui concerne le Champ de Mars et les différents éléments liés donc aux Zekeli, c'est amené à rester un certain temps sur la...
Alors l'idée qu'on a voulu avec la mairie, c'était, parce que ces cubes ont un certain coût, à la fois de proposer une exposition accessible durant la période estivale, donc là on la lance ce soir le 14 juin jusqu'à début septembre, pour que chacun puisse un petit peu s'approprier, s'arrêter pendant l'été. Et après, l'idée des cubes, c'était qu'on peut les déplacer. Et donc, on peut les prendre et les mettre, par exemple, demain dans une cour d'école. Si pour les besoins, je sais que j'ai déjà le lycée La Solée qui a proposé avec ses étudiants en option d'histoire de l'art de travailler sur la maison. Donc tout naturellement, je leur ai proposé de prendre ces cubes et pendant la période qu'ils le souhaiteront, les poser dans la cour du lycée. Et comme ça, les lycéens peuvent s'en emparer. Eux, ils peuvent proposer des productions par rapport à cela.
Bien, merci beaucoup, Benjamin Armand.
Bien, merci beaucoup, Patrice.
Mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion du vernissage d'une exposition dédiée au bateau ivre, dédiée à la créativité, à l'expression artistique et à l'épanouissement culturel des Savarcinois. Mais surtout, l'opportunité de préserver et promouvoir un équipement inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 2007. L'histoire du bateau ivre, nous l'écrivons aussi au futur, aux côtés de nos partenaires institutionnels, la Direction régionale des affaires culturelles et le département de l'Isère, avec l'appui desquels nous engagerons des travaux de mise en protection dans les mois à venir. Avant de vous laisser profiter d'une agréable soirée musicale, je laisse la parole à Benjamin Armand qui va vous présenter notre projet pour l'avenir de ce lieu. Merci.
Chers collègues, monsieur le maire, merci pour votre discours. Chers amis, quelle fierté, je crois que ce soir, c'est véritablement le moment où on lance le bateau ivre, avec à la fois cette exposition et puis cette venue ici au bateau ivre. Je vais d'abord m'arrêter sur deux aspects qui justifient la volonté de la mairie d'avoir préempté ce lieu et puis de ce qu'on pourra en faire. Alors, tout d'abord, vous avez pu découvrir sur l'exposition qu'on a voulu vraiment vivante, interactive, avec ces trois cubes posés sur le champ de Mars, vous faire découvrir une histoire, l'histoire de cette maison, qui a été créée par un collectif, le collectif SZK, avec un couple bien connu des habitants, puisqu'il s'agit du couple Jelas. Et cette maison, elle porte à la fois une histoire de la ville, qui, je crois, est essentiel de rappeler, puisque ça permet de dire quelle est la ville de Saint-Marcellin et qui on est. Et c'est ce qui se lit sur ces cubes de manière assez juste. Mais aussi dire ce qu'a pu être Saint-Marcellin dans les années 50, avec la venue d'artistes importants, comme la réalisatrice Agnès Varda, à l'origine de la Nouvelle Vague, le chanteur Henri Salvador, le dramaturge Jean Villard, qui a créé le Festival d'Avignon et à l'origine des TNP en France, ou encore l'acteur très important dans les années 50, Gérard Philippe. Tout ce beau monde est venu à Saint-Marcellin. C'était l'occasion avec cette exposition de montrer une toute petite partie des recherches qu'on a pu mener avec la mairie et avec nos partenaires. D'emblée, je remercie les services de la ville qui ont fait un travail remarquable à la fois d'habillage de ces cubes et puis de livraison de ces cubes, Sandrine, Valérie, Anna. Et puis aussi tous ceux qui ont contribué à la rédaction des textes, qu'il s'agisse du blog de Jean Briselet ou les héritiers, Clément Bordery et Martin Zekeli, le galeriste Daniel Léger, entre autres. Je crois aussi que c'est important qu'on soit ici ce soir, puisque cette maison, elle est le fruit d'une rencontre entre deux artistes immigrés qui ont été réfugiés en France pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont rencontré des Saint-Marcellinois par hasard à Vienne, par l'intermédiaire d'André Bordery. Et je pense que c'est important de dire que la rencontre entre Européens peut donner lieu à de belles aventures comme l'est cette maison. Vous dire aussi qu'on a accueilli, il y a 15 jours, les étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Annecy, 13 étudiants, emmenés par Emmanuel Louis Grand, qui est professeur en art, sont venus passer leurs évaluations de fin de cycle au bateau ivre. On a pu découvrir, avec les élus qui étaient présents, des étudiants et étudiantes emballés par la maison. Ils ont fait des productions en lien avec cette histoire et ils sont rentrés avec plein de lumière dans les yeux en disant « Saint-Marcellin, c'est ça, je savais pas que c'était pas très loin d'Annecy, nous reviendrons. Cette histoire, elle nous a marqué. » Donc c'est ce qu'on veut en fait avec cette maison qui est parfois un peu critiquée vivement, politiquement, c'est rappeler qu'elle est un joyau architectural de la commune et qu'elle peut attirer du monde comme ça l'a été il y a 15 jours. Alors maintenant, on nous questionne beaucoup sur la direction que peut prendre la maison. On a pris le temps de réunir les acteurs et ce soir, on voulait vous exposer un petit peu les axes qu'on veut pour le bateau ivre. Le premier axe, c'est celui des travaux. Vous le voyez, le toit est en mauvais état. Et donc l'urgence actuelle, c'est de mener des travaux dans cette maison, à la fois pour la préserver, mais aussi pour la rendre accessible au plus grand nombre. Donc on a phasé, on a établi différentes phases qui se feront dans le temps. Et la première phase, on est fiers de l'annoncer ce soir, ça sera au printemps prochain, on va reprendre entièrement le toit pour justement lui redonner tout son éclat et surtout le préserver, puisqu'il y a aujourd'hui des risques sérieux de mise en pour enfin voilà qui risque de dégrader la maison si on ne fait rien. D'abord cette première chose qu'on voulait vous annoncer et on est fiers aussi de dire que ce toit il sera fait à la fois par les finances de la ville mais aussi par nos acteurs, les subventions qu'on a d'ores et déjà obtenues auprès du département, de la région. Donc voilà pour l'annonce du toit. L'idée ensuite, c'est de faire de ce lieu un lieu vivant. Donc, pareil, on l'a phasé pour que ça puisse être cohérent avec les travaux qu'on va y mener. Dans un premier temps, ce qu'on souhaite, c'est en faire un lieu d'exposition temporaire, comme ça avait pu être le cas lors du mois de juin dernier, et d'où le fait de reprendre le toit pour être sûr que la maison est en sécurité. L'idée, ça serait de faire des expositions peut-être en rapport avec l'histoire de la maison, mais pas que. Là, par exemple, Patrice de Radio Rayon m'a dit à juste titre qu'il y a une exposition à Grenoble en ce moment sur Juan Miró. Et Miró a été une des grandes influences du collectif, notamment quand on regarde la fresque, entre autres, avec Paul Klee, avec d'autres artistes influents de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Et donc, par exemple, pourquoi pas un partenariat on l'imagine avec le musée de Grenoble pour une exposition ici. Je rappelle qu'il y a de nombreuses œuvres aussi des Ekeli dans tout le territoire, à Champs-Rousses, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, à Grenoble, à Courchevel. Et c'est aussi ce qu'attend le département de nous, c'est qu'on arrive à mener ces partenariats. Donc l'idée, ça serait de faire des expositions ici pendant la période estivale et d'ouvrir ce lieu avec de la petite restauration pour que les habitants, les passants, les touristes puissent s'arrêter, passer du temps dans le jardin. Vous voyez, le jardin est ultra agréable en période estivale et puissent aussi profiter des expositions à l'intérieur. Ensuite, dans un deuxième temps, là je parle dans le temps court, donc l'année prochaine, dans un temps plus long, on aimerait mener des travaux d'accessibilité de la maison pour en faire dans l'espace nuit à la fois un espace de résidence d'artistes, mais aussi d'habitation insolite, qui permettrait d'accueillir des gens sur la commune, donc dans le cadre de la résidence d'artistes pour créer des œuvres, redonner la fonction de la maison ce qu'elle était, c'est-à-dire des gens qui ont fait des œuvres d'art pendant une petite dizaine d'années, mais aussi accueillir de l'habitation insolite pour que les gens puissent s'arrêter et profiter de la qualité de la maison. Enfin, le dernier point sur lequel je m'arrête, c'est le fait qu'avec la municipalité, on a voulu que cette maison elle soit vivante, elle soit ancrée dans la ville. Et c'est pourquoi ce soir, on annonce que va être créé un collectif, le collectif des Amis du Bateau Ivre, et dans lequel toutes les bonnes âmes, les curieux, les passionnés, ceux qui veulent s'intéresser avec la maison pourront s'y impliquer. On lancera officiellement le collectif au moment des journées du patrimoine, à la rentrée en septembre. Mais ce soir, c'est un appel, on va dire, officiel à tous ceux qui souhaitent me rejoindre, nous rejoindre, pour faire vivre cette maison et en fait être moteur d'idées, de propositions. Donc, j'espère qu'avec ces quelques mots, on a répondu aux attentes de la population qui se demandait quel était l'axe et comment on pourrait s'y investir. Ce soir, deux temps. D'abord, je vais refaire une visite pour ceux qui auraient jamais, qui n'auraient pas encore pu visiter la maison. Et puis après, avec ces cubes, un moment festif sur le Champ de Mars avec le concert de la Petite Lucette. devant le négociant et puis après un DJ set pour que tout le monde puisse se retrouver autour de cette histoire. Merci.
Ici à Saint-Marcellin, on est sur un terrain vierge et un couple de Saint-Marcellinois qui s'appelle Fred et Monique Gelas, un dentiste que certains Saint-Marcellinois ont bien connu, ont décidé d'acheter ce terrain pour y construire leur maison. Il se trouve qu'au même moment, ils rencontrent, par le biais de la chorale que menait tambour battant Fred Gelas, un artiste, à l'époque mais inconnu, André Borderie, qui avait ses ateliers à Vienne. Et par hasard, Fred et Monique Gelas passent, surtout Monique Gelas, passent la porte de l'atelier et tombent sur cette forme d'architecture nouvelle qui s'appelle forme. Elle est séduite, emballée, et donc tout de suite elle dit à Fred Gelas, on a dans les archives de la mairie les plans originaux de la maison qu'ils voulaient construire, mais pour eux ça ne correspondait pas tout à fait à l'esprit artistique qui animait à l'époque le couple Gelas, et donc ils décident de passer commande au collectif SZK, donc pourquoi SZK ? SZ pour Zekeli, Pierre et Vera Zekeli, qui sont tous deux origines d'Hongrie et de Tchécoslovaquie et qui donc sont venus en France pour étudier les beaux-arts pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et André Borderie qui lui est originaire du sud de la France. Et ils décident de passer commande de la maison avec un leitmotiv: on veut que cette maison, elle soit construite tous ensemble, ce qui est un geste fort. On est au moment de l'après-guerre, au moment de la reconstruction. Le Parti communiste et les idées de gauche sont quand même assez présentes dans le pays. Et notamment l'idée de s'associer, de tout signer à 4, voire à 6, puisque dans cette maison, la maison que vous allez découvrir, tout a été fait par eux, qu'il s'agisse des murs, de l'architecture. Donc l'architecture est signée par l'architecte Louis Babinet. Le jardin qui est classé lui également, qui a été fait par un paysagiste, mais aussi par exemple la couleur des murs, la couleur des draps, la couleur de tout en fait, a été pensée par les 6. Et jusqu'au nom de la maison, le bateau ivre, tiré d'un poème de Rimbaud, qui a été trouvé par Monique Gelas en 1956. En quelques mots, avant qu'on entre dans la maison, parce que là normalement je dis des choses dans le couloir, mais on est trop nombreux donc je vais rester là. L'idée de cette architecture, c'est de faire cohabiter la nature avec le culturel. Le naturel avec le culturel. Donc il faut que l'intérieur de la maison sorte dans l'extérieur et que l'extérieur entre dans l'intérieur. C'est pourquoi ça s'appelle la bio-architecture, qui a été inventée notamment au début des années 30. L'idée, donc, quand vous allez rentrer dans la maison, les dalles de pierre entrent dans la maison, ce qui crée une impression de continuité entre le jardin et l'intérieur. De même, le toit, qui est fait par, qui a été hérité de l'architecture de Jean Prouvé, des bacs Prouvé, fait que vous avez de la lumière naturelle qui entre dans le couloir. Ce qui donne cette impression, vous allez voir, quand on est dans le couloir, qu'on ne sait pas trop si on est à l'intérieur de l'extérieur. Ensuite, vous allez voir gravé dans le marbre de l'entrée un plan très simple qui a été dessiné par Pierre Zekeli en 1952. Je pense que ce plan, très influencé en couleurs que vous avez retrouvé sur les cubes par Miro et Calder aussi, a été pensé avant, parce que Pierre Zekeli imaginait qu'une œuvre d'art simple, c'est-à-dire une cellule avec un noyau, pourrait peut-être devenir un lieu de vie. Donc c'est le projet de la maison, et c'est pour ça que cette maison, elle a plein d'atouts architecturaux, mais elle est surtout importante parce que c'est une vraie œuvre d'art dans laquelle on peut habiter. Et c'est comme ça qu'a été pensée cette maison. Donc vous verrez à l'entrée sur la gauche le plan qu'ils ont gravé à l'origine de la maison et qui a ensuite influencé tout le reste. Sur la forme même de la maison, l'idée de Pierre Zekeli, c'était une ligne continue qui, sans arrêt, qui doit faire penser à une coquille d'escargot. Alors Pierre Zekeli a convenu lui-même à la fin de la livraison qu'ils n'y sont pas tout à fait arrivés. Et donc ça va être la recherche de Pierre Zekeli après, dans les années 60-70, jusqu'à l'aboutissement, puisque Pierre Zekeli après a livré des œuvres pour François Mitterrand et pour orner le palais de l'Élysée. Mais l'idée de cette maison, c'est ça, faire en sorte qu'elle ressemble à un biotope, en fait. Et c'est pour ça que vous avez ces formes, ces arrondis, ces formes circulaires qui sont constantes dans la maison. La maison, ensuite, on ira après dans la salle à manger, mais elle se divise en deux endroits. Ce que le collectif a appelé les espaces de jour, ce qui se situe sur la droite, la cuisine que vous voyez là, la salle à manger et deux chambres d'amis par lesquelles on peut rentrer par une porte qu'ils ont dessinée comme une porte de bateau. Et ici, les espaces de nuit, beaucoup plus sombres, qui sont les trois chambres avec la salle d'eau, l'espace pour les parents et les enfants. D'accord ? Et que vous dire d'autre ? Oui, vous dire avant d'entrer que la maison que vous allez découvrir n'est pas tout à fait la maison telle qu'elle a été livrée en 1956 pour tout un tas de raisons. D'abord, le collectif a produit un nombre incalculable d'œuvres pendant ces années où ils étaient là. Il y avait par exemple dans l'entrée un immense chandelier en forme d'anémone qui rappelait l'univers marin qui avait été dessiné par Vera Zekeli. Il y avait des tapisseries dessinées par Vera Zekeli. Il y avait des tableaux peints par André Bordery. Tout ça, on les a référencés. Ça a été tout le travail de la collectivité et aussi avec les acteurs, notamment du musée départemental, de faire la recension de tout ce qui avait disparu. Et donc là, vous allez découvrir une maison qui est encore, si je puis dire, un peu vide, qui n'est plus tout à fait comme elle était. Et tout l'enjeu du projet, ça serait, on va réinvestir ce lieu avec des œuvres, comme ce que les jeunes sont venus faire il y a 15 jours avec leurs œuvres dans toutes les parties de la maison, avec la résidence d'artistes, avec des expositions, pour remeubler quelque peu la maison telle qu'elle était. La grande disparition, la grande tristesse de la maison, c'est la fresque. Qui était dans la cuisine, qui avait été reprise par une revue Paris Match en 1954 qui s'appelait La Cuisine Picasso, puisque Picasso, parce qu'elle rappelle des couleurs de Picasso, il y avait des éléments à l'intérieur de la fresque qui permettaient d'y loger des ustensiles de cuisine. Et cette céramique a été désossée il y a une grosse vingtaine d'années. Et aujourd'hui, bon, là, pour le coup, on parle de prix, mais elle s'est vendue en 2019, si vous voulez, 260 000 euros. Et la spéculation, après, une fois que ça part dans les galeries, la céramique est très à la mode, et Vera Zekeli est très à la mode, et André Bordery aussi. Ce qui explique cela, mais donc, il faut imaginer la cuisine aussi, qui n'est pas du tout celle d'époque. Et c'est pour ça qu'on a fait cette exposition sur les cubes. Sur les cubes, vous avez les photos d'archives. Je vous laisse entrer, regarder, et puis on se retrouve dans la salle à manger. L'idée leur est venue donc de cette fresque monumentale à quatre mains. Et en fait, ça se voit tout à fait les couleurs. Les couleurs et les formes, je dirais, rectangulaires, géométriques. Là, on est tout à fait dans l'esprit de ce que faisait Vera Zekeli et ce qu'elle a fait ensuite toute sa vie. Vera Zekeli, je l'ai dit très rapidement, mais comme les deux autres larrons, est devenue une artiste majeure. Elle a exposé à Beaubourg dans les années 80. À Paris notamment, elle a fait énormément de voilages, de voilures. On revient un petit peu là-dessus sur l'expo. Et donc, tout ça, c'est sa patte. Et après, si vous voulez, tous les aspects naturels de la fresque, les brindilles, ce qui rappelle un oiseau, ce qui rappelle le vent. L'idée, c'est d'opposer à la fois la rigidité des carrés de la céramique avec le mouvement de la nature qui est censé être tourné vers le jardin. Et vous voyez, la fresque, elle ne s'arrête pas aux baies vitrées, mais vraiment, elle prolonge parce que dans leur esprit, l'esprit du collectif, il fallait que les arbres de l'extérieur puissent comme prolonger la fresque et qu'en fait, on n'ait pas d'impression de discontinuité entre l'intérieur et l'extérieur. Et après, effectivement, vous y retrouverez dans cette fresque toutes les influences de tout un pan de l'histoire de l'art, la fragilité de Calder, les couleurs de Paul Klee, tout ce qui a pu les influencer à ce moment-là. J'arrête la visite en donnant deux, trois autres détails. Vous avez du chauffage au sol, pour parler un petit peu d'architecture, extrêmement innovant pour l'époque, comme le toit plat signé éprouvé. Vous avez cette cloison qui permet de fermer, etc. Vous voyez les rangements, les placards designés, là, cette fois-ci, par Bordery et Pierre, qui ornent un petit peu toute la maison et aussi surtout les logements de l'espace nuit. Là, par exemple, cette étagère, alors il manque des plaques d'alu, mais c'était extrêmement novateur pour l'époque d'associer le bois verni de cette manière avec des plaques d'alu. Et d'ailleurs, donc, l'un des héritiers, le fils de Pierre et Vera Zekeli, Martin Zekeli, qui est cité comme l'un des 10 plus grands designers actuellement dans le monde, en fait. Si vous regardez un petit peu les pièces qui sont exposées encore actuellement à Beaubourg, au 3e étage, signé Martin Zekeli, elles sont complètement influencées par ça. Et lorsqu'on avait rencontré Martin, il nous avait dit l'influence qu'avait pu être notamment cette étagère. La cheminée, qui est vraiment atypique, elle a été faite aussi par eux. Ils sont allés chercher tous ces galets du côté de la côte Saint-André et ils ont comme ça orné la cheminée, qui elle aussi est une idée qu'ils ont récupérée d'un immeuble que le collectif avait fait dans le 16e arrondissement de Paris, un immeuble de la rue Docteur Blanche. Et la forme du foyer de la cheminée qui rappelle en fait la forme initiale de la maison. Si vous regardez la maison d'un point de vue aérien, vous allez retrouver la forme du foyer de la cheminée. Enfin, l'ocre de la partie nuit, donc en fait vous voyez c'est comme une séparation, c'est-à-dire que du côté de la cheminée on est censé être cocon, ce qui explique un aspect beaucoup plus sombre par rapport à l'endroit où on mangeait initialement, qui est beaucoup plus lumineux. Et vous avez ces espèces d'hublots qui aujourd'hui ne donnent sur rien, ces hublots colorés, mais à l'origine, il faut imaginer le terrain vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas du tout la végétation, les immeubles qu'il y a aujourd'hui. Et chaque hublot donne sur un des points du Vercors qu'affectionnaient Fred et Monique Jelas. Voilà pour tout ce que je pouvais vous dire pour cette maison. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis donc, cette histoire s'écrit à partir de maintenant. Voilà. Merci.